Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. À elles seules, les images témoignent de la violence du phénomène. Des pans entiers de bâtiments en briques effondrés, des arbres arrachés et des maisons immergées, parfois jusqu'au toit. Hier, l'ouragan Michael a dévasté le nord-ouest de la Floride. Nous serons sur place dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial Grégory Phillips. Et puis, face à la longue liste des catastrophes naturelles meurtrières, que ce soit en Indonésie, à Majorque ou jusqu'en France, dans le Var, où un deuxième corps a été retrouvé ce matin à la suite de fortes inondations, nous nous intéresserons à ce rapport publié hier par l'ONU sur le coût de l'inaction par rapport au dérèglement climatique, en l'occurrence le coût financier des catastrophes liées au réchauffement climatique. Explication à suivre de Véronique Robert.
Voilà près de 10 jours maintenant qu'un journaliste saoudien critique du pouvoir de Riyad n'a plus donné signe de vie depuis son entrée au consulat de son pays à Istanbul.
Et ce matin, le président turc Erdogan avertit que son pays ne resterait pas silencieux après que son homologue américain Donald Trump a lui demandé des explications à Riyad, soupçonné de l'avoir fait assassiner.
Un vent de panique a gagné les places boursières mondiales ce jeudi, Thomas.
Oui, la fébrilité des marchés fait suite à un mercredi noir à Wall Street hier, causé selon le président américain Donald Trump par la politique de relèvement des taux menée par la Banque centrale américaine. Alors vrai ou faux, élément de réponse à suivre avec Marie Viennot.
Et également dans votre édition en France, on ne peut pas parler d'addiction et faire comme si l'alcool n'y était pour rien.
Juste en substance, l'objet de la lettre ouverte que des médecins ont envoyée à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour dénoncer l'absence de l'alcool dans le fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives.
Des atteintes à la laïcité dans l'enceinte de l'école.
Un millier de cas auraient été signalés entre avril et juin dans les établissements scolaires. C'est du moins ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Explication à suivre avec Hakim Kasmi.
Enfin, l'interview politique, comme chaque jeudi.
Aujourd'hui, Adrien Quatennens, député France Insoumise dans la première circonscription du Nord et membre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il a profité d'une nuit au musée lors de l'exposition Picasso 1932, année érotique, pour s'interroger sur le regard des femmes, ses représentations, mais aussi sur le désir, sur l'islam et la sexualité. Toujours avec un jeu de regard décentré, c'est l'écrivain et journaliste Kamel Daoud qui sera l'invité de la deuxième partie de la Grande Table.
Merci, à tout à l'heure. Toute la matinée d'hier, les autorités avaient insisté qu'il était désormais trop tard pour s'éloigner des côtes. Le gouverneur de Floride, conseillant aux récalcitrants de ne pas sortir, avait lui-même prévenu « Vous n'y survivrez pas. Jamais dans l'histoire météorologique, un ouragan n'avait frappé les États-Unis en 7 saisons à une telle vitesse. » À Panama City, l'une des premières villes à avoir été touchée par l'ouragan Michael, c'est un véritable mur d'eau qui s'est abattu hier sur cette station balnéaire pendant presque 3 heures, dispersant des débris partout. Les vents s'y sont déchaînés avec des pointes à 250 km à l'heure. Correspondant sur place de notre envoyé spécial Grégory Phillips.
La traversée de Panama City de nuit sans autre lumière que celle des étoiles est impressionnante, d'autant plus que la ville est placée sous couvre-feu. Il n'y a plus un seul poteau électrique debout et dans la lumière des phares, on voit des bâtiments comme soufflés par des explosions. Des voitures ont été projetées par la force des vents sur le parking qui nous sert d'abri. Tous les véhicules ou presque ont vu leurs vitres brisées par les rafales. La ville est évidemment déserte. La plupart des 35 000 habitants sont partis et extrêmement silencieuse. Parfois, on croise une ou deux voitures de police censées interpeller ceux qui violeraient le couvre-feu. Elles circulent entre les fils électriques tombés à terre et les nombreux débris. Toujours sur la côte, la petite station balnéaire de Mexico Beach a elle aussi été soufflée, si on en croit les premières images venues de la zone et diffusées par les télévisions américaines. Mais c'est seulement tout à l'heure, au lever du jour, qu'on pourra véritablement mesurer l'ampleur des dégâts.
Alors, de phénomène cyclonique extrême, l'ouragan Michael a depuis été rétrogradé en catégorie 1. Aujourd'hui, la dépression devrait traverser les États de Caroline avec de fortes précipitations. Et tandis que l'ouragan s'abattait donc hier sur la Floride, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes publiait, lui, son dernier rapport sur le coût économique des désastres naturels au cours des 20 dernières années. Véronique Robert, bonjour.
Bonjour.
Il ressort de ce rapport que les désastres climatiques coûtent de plus en plus cher. Près de 3 000 milliards de pertes économiques entre 1998 et 2017, soit une hausse de 151% en 20 ans.
Oui, comme une évidence, mais les chiffres du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques, donc de catastrophes, sont là, peut-être pour faire douter quand même les derniers climato-sceptiques. L'augmentation de la fréquence et la gravité des phénomènes météo-extrêmes, ce que l'on vit en ce moment, on vient d'en parler à Majorque aux États-Unis, et les pertes économiques donc liées à des catastrophes climatiques ou autres, des séismes par exemple, explosent. 1 313 milliards de dollars en entre 1978 et 1997, dont 900 milliards liés directement au climat, près de 3 000 milliards, vous l'avez dit, de dollars entre 1998 et 2017, dont 2 200 milliards de dégâts dus au réchauffement climatique, soit une hausse de 151% du coût des catastrophes climatiques en 20 ans. En termes monétaires absolus, les États-Unis sont de loin les plus touchés, près de 1 000 milliards de pertes sur les 3 000 milliards mondiaux. Les tempêtes, les inondations et aussi les séismes placent 3 pays européens dans le top 10 des pertes économiques, l'Allemagne, l'Italie et la France. Le compteur affiche près de 50 milliards d'euros de pertes économiques liées aux catastrophes, rien que pour l'Hexagone. Le tableau dressé par les Nations Unies n'est pas complet. Toutefois, nombre de pays en voie de développement ne procèdent pas à une évaluation économique des désastres naturels. Mais si en termes économiques, les pays riches connaissent de plus grandes pertes du fait de leur infrastructure plus développée, les pays à faible revenu ou revenu moyen, les moins développés, donc subissent un coût humain bien plus élevé. Entre 1998 et 2017, les catastrophes liées au climat ou à des tremblements de terre, par exemple, ont tué 1 300 000 personnes, principalement dans des pays pauvres, 1 300 000 personnes en 20 ans.
Merci Véronique Robérotte. Et quand la nature malmenée ne hurle pas sa colère à coups de bourrasque aussi violente qu'impressionnante comme aux États-Unis, elle continue de gronder toujours et encore de l'autre côté du Pacifique. Cette fois-ci, c'est d'abord au large des îles indonésiennes de Java et de Bali que la terre a de nouveau tremblé hier avant de frapper la Papouasie-Nouvelle-Guinée, bilan au moins 3 morts. Et puis, s'agissant des célèbres 2 semaines après le séisme et le tsunami qui ont fait 2045 morts et plus de 10 000 blessés selon un bilan officiel toujours provisoire. Les autorités indonésiennes ont décidé de mettre un terme aujourd'hui aux opérations de recherche et pas seulement en raison de la difficulté de retrouver les dépouilles englouties sous plusieurs mètres de boue du fait de la liquéfaction du sol, mais aussi parce que leur état de putréfaction avancée pourrait désormais s'avérer nuisible à la santé des survivants si celle-ci était remontée à l'air libre. Il y a décidément des jours où l'actualité ressemble à une longue litanie de lamentations funèbres. À Majorque, la principale île du très touristique archipel espagnol des Baléares, les recherches se poursuivent aujourd'hui pour retrouver un enfant et 2 Allemands disparus après les inondations meurtrières de mardi dernier qui ont déjà tué 10 personnes. En France, à présent, dans le Var, 2 corps ont été retrouvés ce matin par les plongeurs dans une voiture échouée en mer à l'embouchure d'une rivière en crue après les violentes intempéries qui ont frappé le département. Enfin, moins de 2 mois après l'écroulement du pont de Gênes, une portion de pont autoroutier s'est effondrée hier en Sardaigne sous l'effet de fortes pluies. Pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé. Qu'a-t-il donc bien pu se passer ce 2 octobre dans l'enceinte de la mission diplomatique d'Arabie Saoudite à Istanbul? Parce qu'il avait rendez-vous pour obtenir un certificat de divorce qui devait lui permettre d'épouser le lendemain sa nouvelle compagne de nationalité turque, Jamal Khashoggi, s'était rendu au consulat en début d'après-midi, c'était il y a 10 jours. Et depuis, il n'a plus donné le moindre signe de vie. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Désormais, chaque jour qui passe, la pression s'accentue sur l'Arabie Saoudite afin qu'elle fournisse des informations en vain. En revanche, chaque jour qui passe, de plus en plus d'éléments accréditant la thèse de la disparition forcée ou de l'assassinat du journaliste saoudien à Istanbul par des agents de son pays se retrouvent dans la presse.
Oui, et des détails sordides sont publiés par le New York Times qui se fait l'écho des informations données dès hier par les médias turcs, dont une télévision qui a diffusé des images vidéo où l'on voit le journaliste saoudien entrer dans le consulat d'Arabie Saoudite sans jamais en ressortir, ainsi qu'un fourgon noir garé à côté et qui repart 2 heures plus tard. Alors, le journaliste aurait été tué dans les 2 heures qui ont suivi son entrée au consulat. Son corps aurait été ensuite découpé à la scie. Le conditionnel est de rigueur car aucune preuve n'a été pour l'instant apportée. Toujours selon des médias turcs, 15 hommes sont arrivés le 2 octobre en avion privé d'Arabie Saoudite à l'aéroport d'Istanbul. Et parmi eux, il y aurait un médecin légiste, chef de service au sein du ministère de l'Intérieur saoudien. Cet homme aurait été identifié grâce à une vidéo prise lorsqu'il passe la sécurité de l'aéroport. Enfin, selon le quotidien turc Sabah, les employés du consulat ont été invités à prendre une journée de congé le jour où Jamal Khashoggi s'est présenté au consulat d'Arabie Saoudite pour y faire des démarches administratives. Alors tout ceci repose sur des renseignements communiqués par les services turcs, considérés généralement comme fiables par leurs homologues occidentaux. Les responsables saoudiens ont déclaré quant à eux être disposés à ouvrir leur consulat pour qu'une fouille soit opérée dans le cadre de l'enquête, mais cette fouille n'a pas encore eu lieu. Et puis on est en droit de se demander ce que les enquêteurs turcs pourraient bien trouver plus d'une semaine après la disparition du journaliste.
Merci Valérie Crova. Wall Street serait-elle à mi-chemin d'une correction? Hier, la bourse de New York a accusé sa plus forte perte journalière en 8 mois, et ce matin en Europe comme en Asie, les bourses sont toutes en net repli. En cause, la vive remontée des taux d'intérêt par la réserve fédérale américaine, au grand dam d'ailleurs du président Donald Trump lui-même, qui, rompant avec le traditionnel respect de l'indépendance de la banque centrale, fait depuis quelque temps de l'institution un bouc émissaire. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors la Fed est-elle tombée sur la tête, comme le déplore le milliardaire à la Maison Blanche, ou ce durcissement monétaire est-il inévitable?
Bien, si on s'en tient aux principes actuels de la politique monétaire, il est inévitable. Pour comprendre, il faut imaginer qu'une banque centrale, c'est un robinet d'argent. Le bain, on va dire, c'est l'économie. Quand l'économie est à sec, il faut ouvrir le robinet. Quand elle est en plein boom et menace de déborder, il faut le fermer. En ce moment, l'économie américaine est plutôt en surchauffe. Le chômage est au plus bas, la croissance robuste et l'inflation augmente. Il faut donc augmenter les taux, et c'est ce que fait la Fed. Le problème, c'est que les marchés financiers se sont habitués à des taux très bas. Pour sortir les États-Unis de la crise il y a 10 ans, la Fed les a inondés de liquidités, robinet grand ouvert donc, et ils sont maintenant comme des malades à qui on retire leur drogue. Sur le moment, la drogue était peut-être nécessaire, mais il faut maintenant apprendre à vivre sans. Les marchés financiers entrent donc en période de sevrage, et c'est en partie pour cela qu'il y a des corrections. La Fed ne prend personne par surprise. Elle a prévenu il y a 1 an qu'elle remonterait les taux progressivement. Donald Trump est aussi parfaitement au courant de cette trajectoire. Ce que cela pénalise le plus, en fait, ce sont les pays émergents. Argentine, Inde, Turquie, qui voient les capitaux partir de chez eux et retourner aux États-Unis, puisque les taux d'intérêt étant plus élevés, y placer ces capitaux rapporte plus. Or, s'il est compliqué d'analyser les Trumpinades, excusez le néologisme, il est à peu près certain que ce n'est pas pour les pays émergents que Donald Trump traite la Fed de folle. Mais la politique monétaire étant compliquée à comprendre et la Fed ayant pour habitude de ne jamais réagir à ce que l'on dit d'elle, c'est une cible facile et inoffensive en ces temps de campagne électorale.
Merci Marie Viennot. La francophonie est réunie à partir d'aujourd'hui à Erevan. Le sommet s'est ouvert ce matin par une série de discours. Emmanuel Macron s'est notamment exprimé pendant une 30 minutes pour présenter la francophonie comme une famille unie de 84 pays. Une famille qui devra toutefois faire face à de nombreuses menaces. Correspondant sur place de notre envoyée spéciale, Élise Delève.
Comme tous les chefs d'État qui défilent à la tribune, Emmanuel Macron rend d'abord hommage à Charles Aznavour. Une voix qui vient de s'éteindre, celle d'un géant de la chanson qui dit « disait mieux que quiconque nos tourments », dit le président français. Aujourd'hui, ces tourments, ce sont les mensonges, les discours de haine qui émergent sur tous les continents et la remise en cause de l'ordre mondial. Ce sommet prend donc un tour tout particulier, prévient Emmanuel Macron.
Notre principal risque aujourd'hui, c'est d'accepter. D'accepter en contribuant ou d'accepter tacitement. Penser que ce ne sont que des péripéties. D'accepter, au fond, d'être des somnambules. Alors la francophonie dans tout ça, que vient-elle faire? Je crois que ce que nous devons en faire, car elle est constamment à réinventer, c'est ce lieu ouvert, infini, constamment à réinventer, ce lieu du ressaisissement contemporain.
Un ressaisissement qui doit se faire ensemble, car la France n'a pas à édicter de principes d'en haut. Nous l'avons trop souvent fait, concède le président. Un ressaisissement qui passera surtout par la jeunesse africaine et par les femmes, insiste-t-il, sous les applaudissements.
En Irlande, le Sénat a adopté hier une loi instaurant des avertissements contre le risque de cancer sur les étiquettes des boissons alcoolisées. Ou comment traiter de l'alcool comme d'une question de santé publique, touchant donc notamment au marketing, à la publicité et à l'étiquetage. Alors en France, où le vin fait partie de l'identité française et de la vie des territoires, c'est peu de dire qu'on en est encore loin, sans doute parce que les enjeux économiques constituent aujourd'hui un frein à la prévention. Toujours est-il que des médecins ont envoyé en ce sens une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Dans cette lettre ouverte, les professionnels de la santé dénoncent notamment l'absence de l'alcool dans le fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives.
Oui, alors par exemple, si on compare le tabac et l'alcool en France, quand les paquets de cigarettes arborent désormais des poumons cancéreux, des pieds noircis par la gangrène des enfants victimes de tabac et j'en passe, les bouteilles d'alcool, elles, sont beaucoup moins dissuasives en France. On se contente d'un simple logo discret déconseillant aux femmes enceintes de boire. Or, l'alcool est un tueur de masse en France. 49 000 morts annuelles directement causées par sa consommation. Deuxième cause de cancer, première cause de mortalité chez les jeunes, première cause de démence précoce. L'alcool est également impliqué dans plus de la moitié des violences faites aux femmes et aux enfants. C'est la première cause de retard mental évitable de l'enfant, le fameux syndrome de l'alcoolisme fœtal. Plusieurs médecins viennent donc d'écrire une lettre à la ministre de la Santé. Ils demandent à Agnès Buzyn de taxer davantage l'alcool en France. Le gouvernement a prévu une augmentation de 10 millions d'euros du fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives. Mais pour ces médecins, il s'agit d'un simple effet d'annonce, sans commune mesure avec la dimension du problème. Ils souhaitent que le budget de la Sécurité sociale pour l'année prochaine prévoit une taxe sur les boissons alcoolisées en fonction du gramme d'alcool pour financer les soins et une taxe sur les dépenses de publicité pour financer la prévention. Ces médecins viennent donc de déclarer une véritable guerre au lobby de l'alcool, très puissant en France, et cela ressemble un peu au combat de David contre Goliath.
Merci Antoine Marette. Un millier de cas d'atteinte à la laïcité ont été signalés entre avril et juin dernier dans les établissements scolaires en France. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Sur ce millier de cas, donc 400 ont été traités et une soixantaine ont nécessité, nous dit-on, une intervention des équipes académiques dans les établissements.
Oui, problème communautaire, refus de serrer la main d'une fille ou d'écouter de la musique ou encore d'aller à la piscine pour certaines jeunes filles. Autant d'incidents auxquels sont confrontés les enseignants et les chefs d'établissement, ce qui commence dès le primaire, ce qui n'est pas rassurant. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
S'agissant d'enfants qui sont petits, on ne peut pas dire que ce soit eux les auteurs de l'atteinte au principe de laïcité. Mais le fait est qu'ils sont révélateurs d'un contexte de pression contre la laïcité et que c'est contre ce contexte que nous devons agir. Parce que quand, par exemple, un enfant a commencé à aller à l'école en pensant que c'était mal d'écouter de la musique, eh bien, l'école de la République joue doublement son rôle en ouvrant cet enfant au bonheur de l'art et au respect des principes de la République.
Une soixantaine de ces cas ont nécessité l'intervention directe des référents laïcité, comme dans l'académie d'Aix-Marseille, où un papa d'origine tchétchène ne voulait pas que sa fille soit assise en classe à côté d'un garçon.
Mais nous, on a préparé l'équipe à répondre à ça. La directrice d'école, on n'a pas laissé seule face à cette famille. La directrice d'école, on l'a accompagnée par des traducteurs, on l'a accompagnée par un homme, parce qu'il faut aussi qu'il y ait cette présence-là. On lui a donné des éléments de discours. Et la discussion ensuite s'est très bien passée, tout en l'obligeant à respecter les valeurs de la République.
Selon une circulaire révélée cette semaine interne au ministère, ces cas seraient en hausse, ce qu'a refusé de confirmer ce matin Jean-Michel Blanquer.
Merci Hakim Kasmi. Invité de ce journal aujourd'hui, Adrien Quatennens, député France Insoumise dans la première circonscription du Nord et membre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de l'Assemblée avec à vos côtés pour vous interroger Sophie Delpont. Une première question, monsieur Quatennens, avant de céder la parole à Sophie Delpont. Cette semaine, votre formation politique a reproché à Clémentine Autain d'avoir signé un manifeste rédigé par plusieurs rédactions pour l'accueil des migrants. Vous-même, mais aussi tous les autres députés de la France Insoumise avaient refusé de signer ce texte, un désaccord qui évidemment ne pouvait que rallumer la polémique. Pouvez-vous, Adrien Quatennens, nous présenter sans ambiguïté votre position quant à l'accueil des migrants ?
Évidemment et avec grand plaisir. D'abord en commençant par vous dire que nous n'avons rien reproché à un membre du groupe pour la raison qu'en réunion de groupe, nous avons des discussions et des débats politiques. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, peut-être que dans ce groupe, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion ». Bah, figurez-vous que si, nous en avons tous les mardis matin, en l'occurrence, en réunion de groupe. Ça, c'est pour la petite partie interne. Pour le reste, il ne vous a pas échappé d'abord que nous avons toutes et tous signé la pétition pour que la France accorde le pavillon français à l'Aquarius, qui, rappelons-le, n'est pas un bateau de croisière, mais procède à du sauvetage en mer, d'une part. Ensuite, pourquoi n'avons-nous pas signé l'autre pétition, celle de Mediapart, Regards et Politis ? Pour une raison simple, c'est que sur un sujet aussi grave que la mort de milliers de personnes qui meurent en Méditerranée, nous voulons être conséquents et ne pas être dans l'incantation de confort politique. Et le texte, en l'occurrence, ne se posent pas la question de savoir pourquoi les gens quittent leur pays et région d'origine. On a presque l'impression, en lisant ces lignes, que finalement, les mouvements de population, qui, il faut le rappeler d'ailleurs, sont vieux comme l'histoire de l'humanité, sont une fatalité, alors qu'on sait que ces mouvements sont contraints et forcés. Les gens quittent leur pays, non pas de gaieté de cœur, mais les quittent d'abord et avant tout pour fuir les conséquences des guerres, pour fuir les conséquences, et cela va s'accroître, vous le savez, du changement climatique, ou pour fuir les conséquences désastreuses des accords commerciaux inégaux sur lesquels nous faisons, nous, notre beurre économique. Donc nous sommes pour une politique raisonnée, globale, à la fois de coordination de l'accueil des réfugiés au niveau européen, et je rappelle d'ailleurs au passage que lors du débat sur la loi asile et immigration, la France insoumise, sans l'aide de personne, a notamment demandé la création d'un statut, un nouveau statut du réfugié climatique et économique, parce que nous refusons de trier parmi les misères, mais nous disons que nous avons, la France a des responsabilités dans les causes des départs et peut contribuer à faire en sorte que les gens puissent vivre chez eux comme ils le souhaitent. Et il faut avoir ce raisonnement global, et voilà pourquoi nous ne voulons pas tomber dans des facilités, et nous laissons ça à celles et ceux qui n'aspirent visiblement pas à gouverner ce pays.
Une question de Sophie Delpont.
Adrien Quatennens, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Mélenchon a qualifié la réforme des retraites de mère de toutes les batailles. Hier, le gouvernement a dévoilé certaines pistes. Comment comptez-vous, vous, mener ce combat-là, sachant que la mobilisation contre le gouvernement mardi a réuni dans la rue, mais on a déjà vu aussi, contre les ordonnances travail, au printemps dernier aussi, des manifestations qui n'ont pas fait reculer le gouvernement.
Une chose est sûre, Emmanuel Macron refuse de voir à la fois le message de l'opinion et, j'ai même envie de dire, les résultats de sa politique, même de sa propre analyse. C'est-à-dire qu'on voit que les résultats ne sont pas là. Et il nous dit « je ne changerai pas de politique ». D'ailleurs, soit dit au passage, ce que vous avez cité, les ordonnances travail, mais aussi les retraites, mais on pourrait citer également l'ouverture à la concurrence de la SNCF, tout ça, ce sont des directives européennes. Par conséquent, il faudra bien se rappeler, le moment venu aux élections européennes, qu'Emmanuel Macron ne sort pas tout ça de son chapeau, mais c'est la pâle copie de ce que Bruxelles demande à tous les pays, parce que l'Union européenne ne permet de faire qu'une seule et même politique. C'est l'ordolibéralisme partout, sinon rien. Alors sur les retraites, que nous propose Emmanuel Macron? Il nous dit aujourd'hui, il y a 42 régimes, et parce qu'il y en a 42, ça serait trop complexe. On se pose même pas la question dans le raisonnement de savoir pourquoi ces régimes existent et en quoi, par ailleurs, ils sont largement justifiés. Et donc, on devrait simplifier. C'est toujours simplifié avec la Macronie. Et là, en l'occurrence, tout le monde partirait d'une même ligne de départ, et au fur et à mesure de votre carrière, vous cumuleriez des points, et en fin de carrière, eh bien, vous pourriez faire en sorte de convertir ces points en pension de retraite. Mais il y a le risque, effectivement, et on le sait, que la valeur du point soit diminuée chaque année, permettant en bout de course de baisser les pensions de retraite. C'est d'ailleurs ce que disait M. Fillon lorsqu'il parlait de cette réforme des retraites par points. Et par ailleurs, aussi gros problème, c'est que dans les pistes de la réforme, le fait d'asseoir la valeur du point sur l'espérance de vie, c'est nier le fait qu'il y a un lien profond entre l'espérance de vie dans ce pays et l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire que plutôt que de nous raconter sur tous les plateaux télé que parce qu'on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, peut-être qu'on renverse un peu la logique et qu'on se rappelle que si nous vivons plus longtemps, c'est justement parce que nous travaillons moins longtemps. Et par ailleurs, face au chômage de masse, qui est quand même l'une des principales préoccupations dans ce pays, peut-être se rappeler que la diminution du temps de travail est un horizon beaucoup plus porteur que la double ration de CICE qui nous coûte très cher par emploi créé. Voyez-vous, nous sommes pour la retraite à 60 ans, à taux plein, pour 40 annuités. Nous pouvons le financer, nous en ferons la démonstration lorsqu'on discutera de la réforme, et nous mettons en garde. Ce système est une entourloupe qui va permettre de faire en sorte qu'on baisse les retraites, on va continuer de faire les poches. Personne ne voit qu'Emmanuel Macron va harmoniser par le haut. Ça pourrait être souhaitable.
Vous parliez de la campagne pour les élections européennes. Vous voulez faire de ce scrutin-là un référendum anti-Macron. Pour mener cette campagne, à la France Insoumise, c'est Sophia Chikirou qui est en charge de la communication. Est-ce que c'est toujours un choix que vous soutenez, malgré les déboires avec le média ?
Ah mais absolument, mais c'est-à-dire que pour nous, enfin, faut pas tout mélanger. D'abord, le média, c'est un média en tant que tel, qui n'est pas le média de la France Insoumise, hein, nous l'avions dit quand il a été créé, et bien évidemment qu'il y a beaucoup de compagnons de route qui étaient de cette aventure. Et par ailleurs, compte tenu de ce qu'ils font sur le fond, et bien on avait toutes les raisons de les soutenir dans cette aventure. Maintenant, ce qu'ils ont vécu, ben, c'est ce qu'on voit dans à peu près toutes les rédactions, hein. Il y a parfois des histoires, alors on peut regretter que ça soit sur la place publique. En toute hypothèse, une chose est sûre, Sophia Chikirou a une expérience que beaucoup n'ont pas sur des campagnes électorales. Elle a beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine, donc elle a de l'expérience. Elle avait fait, souvenez-vous-en, la campagne de Bernie Sanders dans le
détails et on lui doit beaucoup des éléments qui ont été salués par exemple dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est une personne tout à fait qualifiée et compétente pour être à ce poste de combat. Et pour vous répondre sur le fond, vous dites on veut faire un référendum anti-Macron, mais de fait c'est ce qui va se passer. Dans la mesure où les élections européennes sont la première échéance électorale depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et de sa majorité au pouvoir, beaucoup de Françaises et de Français vont s'en saisir comme de l'occasion d'apporter un message à Emmanuel Macron qui, s'il n'entend pas les mobilisations dans la rue, c'est sûr, je vous le donne en mille, entendra le bruit des bulletins de vote dans les urnes. Et puis par ailleurs, comme sa politique est largement le fait de traduction de ce qui se fait et ce qui est souhaité par l'Union européenne, voter contre sa politique en France ou voter contre cette construction particulière de l'Union européenne, pas contre l'Europe, contre une construction politique particulière, eh bien c'est faire une seule et même chose finalement.
Adrien Quatennens, très rapidement, est-ce que vous seriez candidat à Lille en 2020 pour la mairie ?
La France insoumise sera candidate, c'est sûr. La place que moi j'aurai dans ce dispositif est encore à définir. Honnêtement, on ne l'a pas encore choisi, mais d'abord il y a d'autres échéances, élections européennes notamment. Et moi je regrette que tout le personnel politique soit déjà agité autour des municipales qui sont bien loin, alors qu'on a bien d'autres urgences à traiter avant. Et le jour où des décisions seront prises, je serai ravi de vous en donner les conclusions.
Merci. Adrien Quatennens, député France Insoumise dans la première circonscription du Nord, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui en duplex depuis l'Assemblée. Merci également à Sophie Delpont et à Olivia Granger pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, marqué par une nouvelle perturbation pluvieuse sur l'ouest. Les orages menaceront également sur l'est de la Corse. La vigilance orange est maintenue dans le Var pour risque d'inondation. Sur le reste du pays, temps généralement sec et ensoleillé. Les températures, elles seront comprises entre 18 et 27 degrés cet après-midi.